La question du jour, les transports sont-ils prêts pour le déconfinement? 7h14.
Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Marquage au sol, port du masque, autorisation obligatoire aux heures de pointe en Île-de-France. Bien que les opérateurs de transport se disent opérationnels pour le déconfinement, cette journée sera décisive pour déterminer l'efficacité des préconisations sanitaires du gouvernement et observer si les salariés continuent le télétravail. Les transports sont-ils prêts pour le déconfinement? Bonjour Gilles Dansart.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et rédacteur en chef du site Mobilettre et spécialiste du transport ferroviaire. Alors, les choses se profilent de manière différente entre les zones vertes et les zones rouges. Qu'est-ce qui est prévu pour les zones vertes?
La différence est surtout entre les métropoles et notamment l'Île-de-France et les autres zones. Parce qu'en fait, entre les zones vertes et les zones rouges, ce qui différencie plutôt, c'est l'état d'esprit de la population. Mmh. C'est-à-dire que dans les zones rouges, il y a vraiment une attention très forte portée à la distanciation physique, au port du masque, etc. Dans les zones vertes, il y a un peu moins de pression. Mais vraiment, la grande différence, c'est entre les grandes métropoles et les zones moins denses.
Mais ce que l'on peut dire quand même, Gilles Dansart, c'est que les transports collectifs ne sont pas du tout faits pour la distanciation physique.
Ah, pas du tout. Les transports collectifs depuis 30 ans en France, même plus, c'est fait pour absorber le plus de monde possible. On est dans une économie de l'offre maximale pour avoir la fréquentation maximale. Donc là, on est dans un renversement complet de paradigme. On veut faire entrer le moins de monde possible dans les métros, dans les tramways, dans les RER, dans les bus. Et donc, c'est une vraie gageure et tout dépendra de la façon dont les Français concevront à partir de ce matin leurs déplacements. Et c'est bien ça la grande inconnue dans les heures qui viennent.
Et oui, c'est vraiment la quadrature du cercle, parce que on veut faire rentrer le moins de monde possible, avec bien entendu des difficultés de reprise à la RATP dans toutes les entreprises de transport collectif, comme dans toutes les entreprises de France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il sera compliqué, voire impossible, d'augmenter la cadence des transports.
Il y a une limite physique, hein. On peut pas faire circuler plus de métro, de train, de RER que ce qui est prévu dans ce qu'on appelle le graphique. Hein. Il y a vraiment des limites physiques et puis il y a ces limites aussi de mobilisation du personnel parce qu'il y a beaucoup de personnel qui gardent encore leurs enfants.
Eh oui.
Et puis aussi des limites industrielles parce qu'il a fallu quand même remettre en service des matériels qui depuis plusieurs semaines était quasiment à l'arrêt. Donc il y a tout un ensemble de causes qui expliquent qu'on ne sera pas partout à 100%. Et donc ça diminue encore davantage la capacité de ces matériels à accueillir les Français. On appelle dans les grandes métropoles, on appelle le transport le mass transit, ce qui montre bien comment il a été conçu.
Eh oui.
Donc on a beau avoir adapté les matériels, condamné un certain nombre de sièges, essayer de faire du filtrage. S'il y a beaucoup de monde qui vient dans les stations, ce sera difficile et donc il va falloir qu'il y ait une régulation par les forces de police et par les agents des opérateurs.
Mais alors, question compliquée, Gilles Dansart, en régime de croisière, si j'ose l'expression, quel est le pourcentage de voyageurs qui pourra voyager dans les transports collectifs, donc dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines?
Alors, pour cette semaine, les opérateurs parlent de 15, voire 20%, pas plus, si l'on respecte vraiment la distanciation physique, notamment dans les grandes métropoles. À partir du moment où les opérateurs ont prévu qu'ils vont passer dans moyenne de 70-80% à 100%, on peut imaginer, avec aussi des bonnes habitudes qui vont être prises, qu'on pourra monter à 25-30% d'ici 10 jours. Ça reste faible par rapport notamment aux enquêtes qui montrent que 50% des Français considèrent qu'ils vont progressivement reprendre leur activité comme avant, c'est-à-dire pas en télétravail, mais sur leur site de travail. Donc on voit que potentiellement il y a un hiatus entre le pourcentage que je citais, 30%, 35% peut-être, et puis ces 50% de Français. Donc il va falloir réduire les déplacements non obligatoires, et c'est là que réside d'une certaine façon la clé du succès ou de l'insuccès, c'est tous ces déplacements qui ne sont pas impérieux, comme on emploie l'adjectif depuis déjà quelques temps, et qu'il va vraiment falloir réduire pour laisser la place à tous ceux qui ont besoin du transport collectif pour aller travailler, parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils n'ont pas de vélo, ou parce que la distance entre le domicile et le travail est trop importante pour la faire autrement qu'en transport collectif.
Justement, vous venez de parler du vélo, ça vous paraît marginal, parce qu'on a beaucoup insisté sur des rues, des boulevards qui seraient réservés aux vélos dans certaines grandes villes, Gilles Dansart, comme si c'était une solution. En réalité, c'est plus de l'affichage qu'une réalité, où les gens vont pouvoir remplacer le transport collectif par le vélo, je veux dire vont pouvoir le faire en nombre, puisque c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui.
Ça peut ne plus être marginal, parce qu'à partir du moment où on diminue par 3 ou 4 le nombre de déplacements, si le nombre de personnes qui prennent le vélo est multiplié, comme pendant les grèves de décembre et janvier, par 3 ou 4, alors là, on atteint des chiffres qui sont vraiment intéressants et qui peuvent contribuer à faire diminuer la pression dans le transport collectif. On l'a vu dans certaines villes, comme Grenoble, comme Strasbourg, on atteint des taux, alors je ne vais pas rentrer dans des considérations trop compliquées, on atteint, on dépasse les 10%, voire 20%, on n'est pas encore dans les taux des pays scandinaves ou des Pays-Bas qui sont jusqu'à 30%, mais même à 10 ou 15%, là ça commencerait à se voir vraiment dans les transports collectifs la baisse de pression de la fréquentation.
Sinon, il y a la voiture.
Et il y a toujours la voiture.
Alors évidemment, ça va poser des problèmes, Gilles Dansart.
Eh oui, parce que comme on ne peut pas augmenter le nombre de métros ou de bus ou de tramway, on ne peut pas élargir les routes. Donc là, il y a aussi un problème qui va se poser. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne vont pas la prendre parce que, tout simplement, si on prend, par exemple, en Ile-de-France, la Défense, on ne va pas non plus inventer des parkings. Pour les voitures, donc il y a une limite physique là aussi au déplacement en voiture, donc on voit bien que la seule solution, c'est la réduction du nombre de déplacements et puis l'étalement, le fameux étalement des pointes du matin et du soir, qui est absolument décisif pour que cette fameuse distanciation physique soit respectée.
Dernière question, Gilles Dansart, est-ce que les exemples d'autres pays qui ont déjà déconfiné donnent une idée de ce qui pourrait se passer dans les transports collectifs en France aujourd'hui?
Alors, si on met de côté la grande inconnue d'Île-de-France, qui est le plus grand hub européen de transports collectifs, ce qui se passe par exemple en Italie, à Milan, une ville très, très touchée, est plutôt encourageant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un respect très, très fort des
recommandations
de transport, des recommandations, des conditions de transport avec tous ces équipements, ces fléchages, etc.
Donc ça se passe
encourageant.
Bien.
Il y a un suivi, ça peut bien se passer.
Voilà, au moins une bonne nouvelle. Merci Gilles Dansart. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site Mobilettre et spécialiste du transport ferroviaire. 7h22 sur France Culture.